Vous écoutez
RMC.
Mercredi 3 juin,
l'info sur RMC.
3, Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Premier pays européen confiné, l'Italie rouvre ses frontières aujourd'hui et espère ainsi relancer son secteur touristique dévasté par la crise du Covid-19. Eux ne prendront pas de vacances. De nombreux artisans ont décidé de faire une croix sur leur congé cet été, seule manière pour relancer leur activité. 18 interpellations, gaz lacrymogène, gel de projectiles, incident hier soir à Paris en marge d'un rassemblement interdit contre les violences policières. 20 000 personnes y ont participé. Bienvenue à tous sur RMC. L'Italie, où plus de 33 500 personnes sont décédées du Covid-19, rouvre ses frontières aux touristes européens aujourd'hui. Un mois après la reprise progressive de l'activité dans le pays, les mesures de confinement ont eu un effet dévastateur sur le secteur du tourisme italien. Nous retrouvons Benoît Ruse à Menton, où une longue file d'attente s'est formée.
Deux poids, deux mesures ici à la frontière franco-italienne ce matin. D'un côté, des Français qui peuvent aller librement en Italie, aucun contrôle, ni même de quarantaine. Par contre, dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Regardez sur ces images d'Audrey Lally, il y a une file d'attente de plus de 5 km pour entrer en France. Les gendarmes contrôlent absolument tout le monde. Et d'après les témoins que nous avons pu rencontrer, ça, c'est nouveau. Ça date d'il y a quelques heures. Les Italiens, pourquoi ils veulent rouvrir leur frontière? Eh bien, c'est tout simple, un motif économique. Plus de 5 millions de touristes français se rendent chaque année en Italie. Le tourisme pèse pour 13% du PIB italien.
Benoît Ruiz avec Audrey Lally à Menton pour RMC. La France devrait rouvrir ses frontières aux Italiens le 15 juin. Va-t-on bientôt tous devoir travailler plus, gagner moins ou faire une croix sur ses congés? Hier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a été très clair. La France traverse la récession la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Le PIB devrait subir une chute historique de 11%. Certains artisans sont conscients qu'ils n'ont pas d'autre choix que de travailler beaucoup plus. Les vacances, ça attendra. Le reportage de Thomas Chupin près de Chartres en Eure-et-Loire.
Et cela fait maintenant 3 semaines que Gaël Bert a repris le travail.
Donc là, c'est un chantier de rénovation ou peinture, remise à neuf.
Avec ses deux salariés, le peintre multiplie les chantiers autour de Chartres.
Beaucoup de satisfaction parce que ça a été extrêmement long, avec la boule au ventre de savoir si on allait pouvoir continuer ou si on allait arrêter notre entreprise.
Ces 2 mois de confinement, 2 mois d'arrêt lui ont fait perdre 1/5 de son chiffre d'affaires sur l'année. Alors cet été, pas de vacances.
On a pris la décision un peu lourde avec ma femme de ne pas en prendre cette année parce qu'il faudra compenser quoi qu'il arrive. Ah oui, là, ça bosse tout l'été, oui. On rattrapera pas tout, mais si on pouvait au moins en rattraper la moitié pour l'été, ça serait super, quoi.
Son collègue David Chastagnier s'occupe, lui, d'agencement de bureaux, de magasins. Il a lui aussi chiffré les conséquences du confinement.
Grosse perte. Ça représente 2 mois de chiffre d'affaires, donc pour nous, c'est 162 000 euros.
Et avec ses 12 salariés, il va donc travailler tout l'été.
Pour moi, 0 vacances. Et pour les effectifs, aujourd'hui, je leur ai demandé de prendre que 15 jours consécutifs. Très bien accepté. Ils jouent le jeu. Ils ont compris l'impact économique qu'il y avait eu pour la structure.
Et cet été, l'objectif sera d'enchaîner les chantiers, mais aussi de chercher de nouveaux clients, de se diversifier aussi. Ils ont réussi à sauver leur entreprise en pleine crise sanitaire. Ils ne baisseront pas les bras face à la crise économique.
Donner des congés qui seront transformés en chèques vacances pour les soignants, l'Assemblée nationale a voté hier soir cette proposition de loi de La République En Marche, un texte jugé hors sujet, même obscène par l'opposition de gauche. RMC 8h07, 18 personnes interpellées, gaz lacrymogène, jet de projectiles, incident hier soir à Paris en marge d'une manifestation interdite contre les violences policières. 20 000 personnes rassemblées à l'appel du comité de soutien à la famille d'Adama Traoré, jeune homme décédé en 2016 après une interpellation. Paul Barcelone.
Barricade des mobiliers urbains en feu périphérique brièvement envahi. Les policiers ont tiré des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants. Des débordements venus entacher un rassemblement jusqu'alors très calme, regrette Laetitia Vallard, la porte-parole de la préfecture de police de Paris.
C'est au moment de la dispersion, comme souvent dans les manifestations, que quelques incidents sporadiques ont éclaté et sur lesquels et les pompiers et les forces de l'ordre sont intervenus.
Une manifestation interdite notamment en raison de l'état d'urgence sanitaire. Pour Assa Traoré, la sœur aînée d'Adama Traoré, le préfet de police, Didier Lallemand, est le seul responsable de ces violences.
4 ans que tous nos rassemblements se passent pacifiquement. Aujourd'hui, le seul responsable, c'est Monsieur Lallemand qui va donner cette interdiction et qui va mettre en face de certaines personnes des policiers. Donc c'est le seul responsable.
Le dispositif n'a pas été anticipé. En rage de son côté, Geoffroy Boulard, le maire Les Républicains du 17e arrondissement de Paris. Un arrondissement qui, ce matin, porte encore les stigmates d'une soirée de tension.
Et une nouvelle expertise médicale demandée par la famille d'Adama Traoré conclut que le plaquage par les forces de l'ordre a provoqué l'asphyxie du jeune homme. Aux États-Unis, le mouvement contre le racisme et les violences policières se poursuit après la mort de George Floyd, couvre-feu décrété dans presque toutes les grandes villes américaines, dont New York. J'y vais pour gagner, voilà ce que dit Agnès Buzyn ce matin dans Le Parisien. La candidate La République En Marche sera votre invitée, Jean-Jacques, à 8h30 ce matin sur RMC et BFM TV. Les listes pour les élections municipales sont donc figées depuis hier soir. Agnès Buzyn, pour qui la victoire s'annonce mathématiquement compliquée. Reportage dans le 6e arrondissement de Paris avec celui qui l'a rallié, son nouveau directeur de communication, un certain Gaspard Ganzer, Pierrick Bonneau.
Directeur de la communication d'Agnès Buzyn, c'est le nouveau rôle de Gaspard Ganzer, pas toujours simple à endosser devant les Parisiens.
Je suis candidat, je suis tête de liste dans le 6e arrondissement, là, aux élections municipales, et pour la liste de, on va dire, la majorité présidentielle.
Le nom de la candidate n'est quasiment jamais prononcé, mais celui qui a conseillé François Hollande à l'Élysée assume.
Je suis même extrêmement fier de faire campagne avec elle, mais quand on est dans la conversation comme ça sur le terrain, on discute des enjeux micro-locaux très liés au 6e arrondissement.
Il faut dire que l'image de l'ex-ministre de la Santé a du plomb dans l'aile.
C'est trop tard. Elle ne porte aucun espoir, Buzyn. De toute façon, elle est inexistante, cette femme. Elle a été balancée là. Même elle, je suis sûre que le matin, elle se réveillait à se demander pourquoi elle était là. Hein. J'en suis persuadée. Hein.
Agnès Buzyn pourra toujours compter sur le soutien de Nicole, électrice dans le 6e arrondissement.
On lui fait plein de misère et ça me fait vraiment, ça m'énerve. C'est une fille formidable. D'abord, elle a toutes les qualités, toutes les compétences, et qu'elle prend des coups et elle se relève, et elle reprend des coups et elle se relève.
Se relever puis espérer passer devant les deux favorites que sont Anne Hidalgo et Rachida Dati en seulement 25 jours.
Et puis on notera la fusion de dernière minute à Clermont-Ferrand, fusion entre la droite et la République En Marche, même chose à Bordeaux. Si je vous dis allergie, eh bien vous me répondez nez qui coule, les yeux qui piquent, antihistaminique, etc. C'est la période, les conditions météo n'arrangent rien. Bien au contraire, reportage de Romain Poiseau à Fontainebleau, en Seine-et-Marne.
Golf et allergies ne font pas bon ménage.
Ah non.
Difficile de réussir son swing avec le nez qui coule et les yeux qui grattent pour Philippe.
Oui, on est beaucoup plus gêné. Un éternuement irrésistible. Et après, avec un peu de picotement, et le nez qui coule un petit peu. Quoi. C'est handicapant, mais... C'est pas la raison fondamentale pour laquelle elle rentre pas.
Bon, allez, tant pis.
Philippe souffre d'allergie depuis le déconfinement, depuis qu'il peut à nouveau fouler le grill.
Grosso modo, oui, depuis début mai, en fait. J'ai eu des crises plus fortes à ce moment-là.
Depuis le déconfinement, les patients défilent dans le cabinet d'allergologie du docteur Famty.
Le standard explose.
Pour lui, le confinement a eu un effet sur la sensibilité des Français au pollen.
Le stress a pu augmenter notre réactivité immunitaire. Peut-être aussi le fait de pas être sorti beaucoup et puis se confronter de manière massive en fait au pollen en allant dans les jardins. Il y a beaucoup de gens qui vont déclarer des symptômes, des crises très fortes, alors qu'ils n'ont pas ou très peu eu de symptômes les années précédentes.
Autre raison possible, le réchauffement climatique et l'allongement des saisons. Les plantes s'adaptent et produisent davantage de pollen plus tôt dans l'année.
Et la pluie qui arrive à faire du bien.
Oui, c'est certain. Problèmes. C'est certain. Puis faire du bien, non seulement pour les allergies, mais faire du bien au sol. Tout simplement. Agnès Buzyn sera donc notre invitée tout à l'heure, 8h35, 9h. Ne ratez pas l'interview sur RMC et BFM TV. Il est 8h12 minutes.